impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Carnet de voyage. Aujourd'hui, voyage en haute mer.
Le vent se lève, hâte-toi. La voile bat au long du mât. L'honneur est dans l'étoile, et l'impatience sur les eaux comme fièvre du sang. La brise mène au bleu du large ses couleuvres d'eau verte, et le pilote lit sa route entre les grandes taches de nuit mauve, couleur de cerne et d'échymose.
Les pieds nus des marins battent doucement le pont. Nous partons au jour qui se lève. Dès que nous sommes sortis du port, un vent court et dru brosse vigoureusement la mer qui se révulse en petites vagues sans écume. Un peu plus tard, le vent fraîchit et sème l'eau de camélia aussitôt disparue. Ainsi, toute la matinée, nos voiles claquent au-dessus d'un joyeux vivier. Les eaux sont lourdes, écailleuses, couvertes de baves fraîches. De temps en temps, les vagues jappent contre l'étrave. Une écume amère et onctueuse, salive des dieux, coule le long du bois jusque dans l'eau, où elle s'éparpille en dessins mourants et renaissants, pelage de quelques vaches bleues et blanches, bêtes fourbues qui dérivent encore longtemps derrière notre sillage. Depuis le départ, des mouettes suivent notre navire sans effort apparent, sans presque battre de l'aile. Leur belle navigation rectiligne s'appuie à peine sur la brise. Tout d'un coup, un plouf brutal au niveau des cuisines jette une alarme gourmande parmi les oiseaux, saccage leur beau vol et enflamme un brasier d'ailes blanches. Les mouettes tournoient follement en tous sens, puis, sans rien perdre de leur vitesse, quittent l'une après l'autre la mêlée pour piquer vers la mer. Quelques secondes après, les voilà de nouveau réunis sur l'eau, basse-cour disputueuse que nous laissons derrière nous, nichée au creux de la houle qui effeuille lentement la manne des détritus. À midi, sous un soleil assourdissant, la mer se soulève à peine, exténuée. Quand elle retombe sur elle-même, elle fait siffler le silence. Une heure de cuisson et l'eau, pâle, grande plaque de tôle portée au blanc, grésille. Elle grésille, elle fume, brûle enfin. Dans un moment, elle va se retourner pour offrir au soleil sa face humide, maintenant dans les vagues et les ténèbres. Un matin, Brusquement, les mouettes disparaissent. Nous sommes loin de toute terre et seuls avec nos voiles et nos machines.
Le vent revient bien frais, l'étrave gronde le jour et la nuit. Tout le ciel est à moi, toute la mer est à moi, et toute la terre aussi. Je suis tellement heureux que je voudrais le dire à mes amis qui sont restés là-bas, ne pas le garder pour moi tout seul, leur dire comment c'est ici, en mer, après si longtemps. Si longtemps qu'on ne se souvient presque plus. Et c'est ça qui compte, ce qui reste quand on ne se souvient presque plus.
Les noirs vaisseaux sous les étoiles, vêtus du blanc linceul, des voiles glissent sur l'âpre gouffre amer. Et sous leurs ailes, les vents tiennent la nuit lugubre où vont et viennent tous ces fantômes de la mer. La mer roulait avec le bruit d'un char énorme, un bras qui par moments sortait de l'ombre informe sur le dos des flots noirs de ténèbres construits, faisait claquer l'éclair, fouet. Sinistre des nuits. Alors Dieu déchaîna les vents, ses tourmenteurs fondirent sur la mer de toutes les hauteurs, battant les rocs, tordant les flots, fouettant la brume, traînant la vague en pleurs par ses cheveux d'écume.
Une brise se levait. Le bateau qui évitait à la marée vient debout à une risée plus forte. Et soudain le mou du câble de chêne entre le guindeau et le manchon d'écubier cliqueta, glissa d'un pouce sur l'avant et s'écarta doucement du pont, laissant croire de façon surprenante à une vie insoupçonnée et furtivement cachée dans le fer. Dans le manchon d'écubier, les maillons grinçants firent résonner tout le bateau comme le sourd grognement d'un homme soupirant sous un fardeau. La tension gagna le guindeau, la chaîne se tendit comme une corde, vibra, et la poignée du frein à vis s'agita par à coup. Singleton s'avança. Jusqu'alors, il était demeuré debout, songeur et l'esprit vide, calme et sans espoir, le visage sombre et inexpressif, enfant sexagénaire de la mer mystérieuse. Ses pensées de toute une vie auraient pu s'exprimer en 6 mots, mais le branle donné à ces choses qui appartenaient à son existence, tout autant que les battements de son cœur, éveilla une lueur d'alerte compréhension sur la sévérité de son vieux visage. La flamme de la lampe vacilla, et le vieil homme, les sourcils broussailleux, froncés, se pencha au-dessus du frein, attentif et immobile au milieu de la folle sarabande des ombres qui dansaient. Puis le bateau docile au rappel de l'ancre prit légèrement de l'air et diminua la tension. Le câble, soulagé, s'infléchit, et après quelques balancements imperceptibles, il tomba avec bruit sur le plancher de bois dur. Singleton saisit le haut levier et, sous la violente poussée en avant de son corps, arracha une demi-révolution au frein. Il se remit d'aplomb, respira profondément et resta un instant à fixer d'un regard furieux le puissant et massif engin tapi à ses pieds sur le pont, comme un monstre au repos, tel un animal étonnant et dompté. « Tiens bon, toi !» lui grogna-t-il, impérieux, dans la broussaille inculte de sa barbe blanche.
Homme libre, toujours tu chériras la mer, la mer est ton miroir. Tu contemples ton âme, dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables.
Une ligne serrée de 25 dauphins nageant de front passe de l'arrière à l'avant du bateau, sur tribord, en trois respirations. Puis tout le groupe vire sur la droite et fonce à 90 degrés, toutes les dorsales coupant l'eau ensemble dans une même respiration à la volée. Plus de 10 fois, ils répètent la même chose. Même si le soleil revenait, je ne pourrais plus m'arracher à toute cette joie, à toute cette vie, pour redescendre chercher la caméra. Jamais je n'avais vu un ballet aussi parfaitement orchestré. Et c'est toujours sur la droite qu'ils foncent à 90 degrés, pendant une trentaine de mètres, en faisant blanchir la mer. Ils obéissent à un commandement précis, c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il s'agit toujours du même groupe de 20 à 25. Il y a trop de dauphins pour pouvoir les reconnaître. Ils ont l'air nerveux. Je ne comprends pas. Les autres aussi ont l'air nerveux et nagent en zigzag avec beaucoup d'éclaboussures, en frappant souvent l'eau de leur queue, au lieu de jouer avec l'étrave comme ils font d'ordinaire. La mer entière siffle de leurs cris. Encore un passage de l'arrière à l'avant, avec ce même virage brutal et souple sur la droite. À quoi jouent-ils aujourd'hui? Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi sont-ils nerveux? Parce qu'ils sont nerveux, ça j'en suis sûr. Et ça non plus, je ne l'avais jamais vu. Quelque chose me tire, quelque chose me pousse. Je regarde le compas. Josua court vent derrière à 7 nœuds, en plein sur l'île Stuart, cachée dans les stratus. Le vent d'ouest bien établi a tourné au sud, sans que je me sois rendu compte. Le changement de cap n'a pas été détecté à cause de la mer très peu agitée, sans houle, dans laquelle Josua ne bute pas du tout, ne roule pas non plus. D'habitude, Josua me prévient des changements de cap sans que j'aie besoin de regarder le compas si le ciel s'est bouché. Mais là, il ne pouvait pas m'avertir.
Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil.
J'ai ouvert les yeux sans savoir pourquoi. Mon quart est encore loin. Est-ce le temps de se renfoncer sous la couette pour savourer un quart d'heure de farniente ? J'adore cette sensation de s'abandonner au rythme de la houle quand tout va bien. Il y a juste cet imperceptible bruit de crécelle au-delà du ronronnement du moteur. Oh, rien du tout, mais de quoi me tirer du lit. Agnès, tu entends comme moi ? Non ? Alors, j'ai rêvé ? Une heure après, je rêve pas. La meuleuse, la perceuse, la boîte de clé à pipe encombrent le carré. La question à l'ordre du jour est de refabriquer une panne d'alternateur, sinon plus d'énergie, plus de lumière, plus de communication ni de météo, plus de pilote automatique. Les pannes font partie de la vie du marin. J'irais jusqu'à dire qu'une navigation sans panne est suspecte et qu'il y a une certaine jouissance à faire tout avec rien. Évidemment, c'est toujours ce qu'on n'a pas prévu qui casse. On a beau avoir couru tout ce qu'Ushuaïa compte de quincaillerie, passer des heures en montage et démontage, la mer a raison de tout. Elle a des arguments puissants, comme l'humidité, les chocs, les UV, avec parfois en renfort une bêtise de l'équipage. Mais c'est surtout le temps qui, seconde après seconde, transforme un imperceptible frottement en rupture. L'avarie est sœur de la rancune. Elle vous fait payer, des semaines plus tard, le bricolage bâclé et le « ça ira bien comme ça ».
Les houles gigantesques de l'océan austral déchiquetées par le vent monstrueux n'étaient plus que des écroulements, des avalanches entaillées de crevasses mouvantes et qui charriaient comme des blocs d'énormes boursouflures d'eau neigeuse. La tempête y piochait, y creusait des cavernes noires toutes prêtes à engloutir. En même temps, les rafales, ciel et cime, des lames en aiguilles et en crocs que les hommes regardaient déferler sur eux à 20 mètres au-dessus de leur tête quand ils touchaient le fond raboteux des ravins. Ils étaient encore à guetter chaque lame l'une après l'autre. Ça les occupait, puisque le capitaine avait fait ramasser largement à temps. Bientôt, il n'en serait plus question. Tant et tant leur serait passé dessus qu'ils les recevraient sur le paletot sans leur demander leur identité. Pour le moment, c'était nouveau. Et ils les regardaient accourir, se tordre, se heurter, se chevaucher autour d'eux dans un bouillonnement d'éruption. Au mieux amariné, les interminables descentes à pic serraient le ventre. Puis, quand ils s'étaient remontés, comme rejetés en l'air d'un furieux coup d'épaule, et que la Galatée, à bout de force, s'agenouillait devant la crête courbe, leur pensée, à tous, ralliait le bord en un éclair pour s'y diffuser dans le navire tout entier, recevoir dans leur cerveau, dans leur cœur, le coup qui le frappait et dont ils gémissaient en tremblant. Ce ne fut qu'après avoir doublé Chiloé qu'ils rentrèrent dans le beau temps. Ils ne voyaient pas la terre. Ils savaient qu'avec eux, cette dernière île de la côte Patagone cessait ses déchiquetures, son hachage par l'océan du sud. Désormais, ce serait la muraille abrupte et aride de la côte chilienne et sous la quille de la Galatée, des fonds de 5000 mètres, les premières fosses du Pacifique. Te voilà de quart, pilotin, jusqu'à 4 heures du matin, pour rendre les minutes brèves, que faire en guignant le compas ? Sommeiller ? Tu ne le dois pas. Rêver ? Oui, vas-y de tes rêves.
Il y a des grands mots qui sont comme des gros mots et que la pudeur conduit à ne pas employer. Bonheur est sans doute de cela. Pourtant, je crois qu'on peut dire que Tabarly, malgré le temps contraire et le pilote automatique perdu, a eu du bonheur en mer. Celui d'arriver le premier, certes, mais aussi celui de partir, qui est peut-être le moment le plus émouvant quand glisse le dernier tour mort de la dernière amarre à quai, et celui de naviguer, choisir sa route, envoyer de la toile, la réduire, estimer le temps, calculer sa position, changer sa route, renvoyer de la toile, dormir, ne pas dormir, manger, réparer une écoute, avoir les mains brûlées, les lèvres et les yeux salés, sentir la sueur et le suin, voir la mer montrer contre soi et entendre le vent forcir jusqu'à ce que l'univers ne soit plus que vacarme dément, se mettre à la cape et aller dormir. Une nuit, une aube, un jour, un soir, 24 fois. Calculer, estimer la mer et le ciel, et continuer. Se réjouir discrètement de ce que la brise adonne, le baromètre fait mouvement dans le bon sens, l'horizon là-bas s'éclaire. Entendre le bruit de l'eau contre la coque, quand le bateau travaille au mieux de ses formes, et que les voiles sont comme elles doivent être. Faire naturellement, jour après jour, tous ces gestes qui s'énoncent en un mot. Largue, affale, embraque, étarque, borde, choc, lof, abat, envoi, qui sont les gestes de la vie et parfois de la survie en mer. Être seul. Si aujourd'hui la course en haute mer fascine de plus en plus, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit d'un exploit sportif à la dimension d'un océan. C'est aussi parce que, dans notre monde au combat douteux, vivre et gagner en mer, à la fois contre les éléments et grâce à eux, apporte ce qui nous manque à tous, des mystères simples.
Rabandez la belle, rabandez-moi. Larguez le hâlebas du mât, choquez l'écoute, la belle, ah, choquez-moi. Pesez la triste pique de mât, guidez la vergue, la belle, oh, guidez-moi. Étarquez le pic, raidir le mât, lovez les drisses, la belle, ah, lavez-moi. À l'automne, je serai dans tes bras, dans les tuiles à trinquette, on trinquera. À la Toussaint, on se confessera, du mou à l'écuyette, on mollira. À Noël, on se mariera.
Vous avez entendu des extraits des textes suivants, lus par Paul Corvez et Dominique Le Breton.
Amère de Saint John Perse.
La mer au plus près d'Albert Camus.
Un extrait de Moitessier dans Grand navigateur solitaire de Benjamin Lambert.
Poème de la mer de Victor Hugo.
Joseph Conrad, Le nègre du Narcisse.
L'homme et la mer, poème extrait des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.
La longue route de Bernard Moitessier.
Poème extrait du Bateau ivre d'Arthur Rimbaud.
Salut au Grand Sud d'Isabelle Autissier et Éric Orsenna.
Ceux de la Galatée, roman de Roger Vercel. Et poème extrait de La mer de Jean Richepin.
Et enfin, un extrait du Dictionnaire amoureux de la mer de Jean-François Deniaux.
La musique est empruntée au film Entre terre et mer d'Hervé Ballet. L'enregistrement de cette émission a été réalisé par Émeric Geoffroy.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez